Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 164e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une sélection actu, gaming, app, culture et tech. Une sélection que j'ai réalisée avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour Fasquille, et je crois que c'est le 163e, mais c'est ce qui a marqué en haut du truc. Alors est-ce que je dis n'importe quoi ou pas?
Ah, c'est possible que j'ai avancé un petit peu là, je suis déjà sur le 164e moi.
Bah oui, moi je pense que il faut se calmer, hein. Le 164e ça sera la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, tu sais, tu avais l'air tellement enjoué que je propose que nous gardions ce truc là, comme ça les gens vont se dire merde, on est raté un, qu'est-ce qui se passe,
bêtisier,
un petit bêtisier tranquille mais en live, tu vois. Mais oui, non tout va bien sinon, hein. Mais c'est le 163e quand même.
Allez, on va attaquer tout de suite avec l'actu gaming et un jeu qu'on aime beaucoup sur Torréfaction, c'est Dead Cells.
Eh ouais, on l'aime beaucoup depuis 2018. Motion Twin, qui nous fait des petites extensions, des petits DLC à intervalles réguliers, continue de nous faire plaisir. Et en plus, ils assassinent pas le chaland, hein, vu qu'à chaque fois, c'est quand même d'un prix très raisonnable. Le nouveau DLC s'appelle Fatal Falls et il coûte 5€. Vous allez pas en mourir. Alors, ça rajoute que deux biomes de niveau, si vous voulez, avec des nouveaux ennemis, des nouvelles petites blagounettes pour mourir et être toujours plus crispé sur son pad.
Tout ce qu'on veut.
c'est ce qu'on demande à Dead Cells en même temps. Hein, donc on a payé pour ça, j'ai envie de dire. Et là, le résultat est toujours aussi sympathique. Alors évidemment, Fatal Falls, les gars, je vous cache pas qu'il y a un des biomes où vous allez effectivement être très crispé si vous êtes d'une dextérité légendaire comme moi sur ce genre de titre. Bon, c'est un peu pénible. Alors, il y a beaucoup de vide entre les plateformes, on va dire. Hein, on ne meurt pas, mais on perd quelques morceaux de vie assez rapidement, ce qui est très très pénible. Ils ont vraiment fait un super taf. C'est aussi bien que d'habitude. Le scénario évolue. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été assez loin dans le jeu pour comprendre qui était le vrai vilain du jeu. Car oui, dans Dead Cells, il y a un scénario, les gars. On l'oublie trop souvent. C'est assez marrant la façon dont ils ont fait ça. Et si vous êtes intéressé, d'ailleurs, je vous ai linké un papier de Kotaku qui vous explique un petit peu où on en est, alors qui résume d'ailleurs où est-ce qu'on peut jouer à Dead Cells. Alors la réponse, c'est partout maintenant, hein. Ça fonctionne sur iPhone, ça fonctionne sur toutes les consoles, sur PC, etc. Évidemment, il y a des gens qui ont des préférences. On peut y jouer vautré avec une Switch sur les genoux, enfin je veux dire dans ses petites mimines. Moi je conseille pas, parce que la Switch peut apprendre à voler très très vite. Bon après faut voir, un pad dans la télé ça peut arriver aussi. Bref, Dead Cells c'est ce genre de jeu, hein, donc faut quand même être un petit peu zen. Et surtout ils expliquent combien il y a de DLC actuellement, donc parce que faut rappeler qu'il y a eu Rise of the Giant qui est sorti, il y a eu Bad Seed, Fatal Falls, et il y a des wikis un peu partout pour vous expliquer les pouvoirs disponibles, ce que vous avez débloqué, ce que vous avez pas débloqué, et l'interface de Dead Cells a pas mal progressé pour justement vous donner un peu des indications sur ce que vous avez pu louper. C'est vraiment toujours aussi bien, allez-y, si vous aviez rangé le jeu, c'est le moment de vous énerver à nouveau.
Allez, moi je vais vous parler d'une news dont on se fout un peu, en fait, globalement, mais qui m'a fait beaucoup rire, donc je voulais
non,
quand même...
Non, on s'en fout pas, parce que moi ça m'intéresse, voilà.
On sait jamais.
On sait jamais.
Donc, vous connaissez tous Auto Chess, hein, qui est donc un jeu dérivé du MOBA Dota de loin, qui avait été produit par des Chinois, si je dis pas de bêtises. Hein,
c'est un mode, c'est ouais, des Chinois. C'est un mode Dota 2 fait par des Chinois à la base, et qui est devenu un stand-alone,
un vrai jeu, voilà.
Voilà, qui est fait par une boîte chinoise à la base, et qui a été copié partout, y compris par Valve.
Et voilà. Et puis là, on se retrouve maintenant avec une espèce de mouvement perpétuel, hein, puisque donc on est parti d'un
MOBA.
On est parti d'un STR qui a été adapté en MOBA, enfin qui a eu un mode MOBA. Le MOBA a lui-même engendré un mode Auto Chess. Auto Chess a lui-même engendré un vrai jeu. Et aujourd'hui, les développeurs de cet Auto Chess vont lancer, devine quoi, un MOBA. Voilà. Ça a été annoncé donc le 8 janvier dernier par Dragonest. Hein. Chinois oblige forcément, la propriété intellectuelle, c'est pas trop leur truc. Donc on retrouve pas mal de similarités avec le roster du modèle Dota. mais on peut pas en dire plus pour le moment, hein, parce que le jeu est pas sorti, donc ça a été juste une annonce, faudra juger sur pièce. Moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin d'un énième MOBA, ça ressemble surtout à un move assez opportuniste pour, je sais pas, tenter de capter peut-être une partie du marché, mais est-ce que ça va vraiment réussir à venir chatouiller Dota et LOL, sans compter que, bah, il y a encore d'autres vétérans de la scène qui sont toujours bien vivants, hein, Heroes of New Earth, on pense à toi.
Ouais, donc, ils sont 12, arrête.
Oui, ils sont toujours là.
Mais c'est nos 12 préférés, c'est ceux qu'on aime.
Donc, je suis pas convaincu, mais voilà, je trouvais ça tellement absurde que je voulais en parler. Et effectivement, on verra. Peut-être que ça sera un très très bon MOBA.
Ouais.
On...
Alors, oui. Et puis, il faut voir un peu. Ça, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'aimerais déjà qu'ils s'occupent un petit peu mieux de la promotion de leur auto chess, parce que globalement, ce que je vois surtout chez les gens qui sont fans du genre, c'est que soit vous êtes un puriste et vous jouez toujours à leur mode sur Dota 2. Mm-hmm. Je vois les Chips & Wa et compagnie, ils sont toujours scotchés sur cette version-là. Les gens qui aiment bien Dota 2, comme moi, jouent à Underlords. Mm-hmm. Et puis, bon, les gens qui ont des goûts, alors douteux, non, ça serait méchant, mais bon, je joue à la version de League of Legends, et bon, voilà, et c'est un problème. Alors, pourquoi je parle de promotion? C'est parce que, en fait, si vous regardez dans les faits sur Twitch, sur ce genre de truc, je pense qu'il y a 12 personnes qui regardent des Twitch, enfin, qui regardent les streams, qui regardent les deux streams qui se battent en duel, généralement, de Dota Underlords.
Mais c'est-à-dire ça doit pas être super intéressant, en fait.
Hein. Mais en fait, ça marche pas mal, parce que du coup, c'est pas plus intéressant de mater du Tactics, donc la version de League of Legends, tu vois.
Je parlais du auto chess en général, en fait.
Non, mais en fait, ça peut être très intéressant, mais enfin, je veux dire, c'est aussi intéressant que de mater une partie d'échecs, enfin, tu vois. Donc forcément, si t'aimes pas trop le genre ou que t'aimes pas le côté un peu chance, etc., c'est pas non plus extraordinaire.
S'il y a pas Anya Taylor-Joy, c'est pas la même chose.
J'avoue. Je suis bien d'accord avec ça. D'ailleurs, j'avais peut-être un concept de stream, là, du coup, faut que je lui en parle. Très honnêtement, je suis de toute façon assez dubitatif sur la façon qu'ils vont avoir de promouvoir ce genre de truc. Déjà, quand on voit la nullité absolue de nos amis de Valve sur la promotion de Dota Underlord, c'est quand même pas génial. Hein. Mm. Donc, on verra bien comment ça se passe. Et d'ailleurs, Valve, si tu m'écoutes, hein, j'espère... Non, bon, tu m'écoutes pas, tant pis. Mais j'ai un crash. C'est le seul jeu de... J'ai, je sais pas, 200 jeux que j'ai dû tester sur cette machine maintenant. Et Dota Underlords est le seul qui crash, alors que c'est quand même le truc le plus violent de la Terre, tu vois, à faire tourner. Et ça me rend ma boule. Je vais quand même pas jouer à autre chose à cause de ça. C'est quand même pas possible. Ça, on peut pas jouer tranquille, je te jure. Voilà, j'ai fait mon petit rant. On peut continuer.
C'est vrai que j'ai le même problème. Moi, il a fait hurler ma carte graphique pendant une partie un jour. J'ai eu très très peur. J'ai cru qu'elle allait décoller et j'ai jamais compris pourquoi, en fait. Donc, je pense qu'il y a des petits soucis d'optimisation, peut-être encore.
Et pourtant, il n'y a pas grand chose, hein.
Ben non. Allez, on reste dans le gaming et tu voulais nous parler de la suite du Céleste classique. C'est pas tout à fait une suite du Céleste qu'on connaît, en fait.
Ah ouais, c'est une petite ruse. Alors, Céleste, on parlait des jeux qui font péter des télés et balancer des pads. Alors, bon, Dead Cells à côté, c'est un jeu zen, facile. C'est la version Play School. Hein. C'est surtout un jeu très orienté baston. Céleste, on est vraiment dans le platformer qui rend ma boule. Et il faut savoir que donc, c'est une Céleste, le jeu que vous connaissez tous, est basé sur un truc qui s'appelle Céleste Classique, et en fait Céleste Classique a donné naissance à une suite, parce qu'il faut dire que le créateur du jeu avait dit on fera jamais de suite à Céleste et tout, mais ils ont dit ah mais on n'avait jamais rien dit pour Céleste Classique. Voilà. Donc du coup ils ont fait une suite gratos pour le fun, en fait, qui est issue d'une game jam qu'ils ont codée en 4 jours qui s'appelle Céleste Lannis Trek. C'est disponible dans le lien que je vous ai mis dans le billet qui accompagne le podcast, et en fait ça peut se jouer carrément dans un navigateur. C'est une version Pico 8, en fait, donc du coup vous avez vraiment du 128x128, c'est très pixelisé, mais ça reste toujours aussi jouissif qu'on y arrive, et aussi frustrant quand on n'y arrive pas, ce que je ne vous cache pas est souvent mon cas. Le jeu, quand on le lance dans un émulateur, par défaut on va vous dire oui, vous pouvez utiliser telle touche, donc en fait c'est les touches du curseur et puis X et C. Il y a une touche pour sauter, une touche pour le grappin que vous allez débloquer pendant le premier niveau. Et très honnêtement, non, en fait la ruse c'est que ça peut marcher avec un pad, et rendez-vous service, branchez un pad. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après le pad, vous allez peut-être le péter, hein. Mais vu le prix des claviers que je vous recommande sur Geekzone, si vous avez ça, je vous pète plutôt un pad quand même.
C'est ça, ouais.
Parce que franchement, mais c'est quasiment au clavier, c'est impossible. Enfin, moi, je sais que je peux pas faire un demi-tableau avec, donc je vous laisse juger. Après, je suis vraiment pas une référence sur Céleste, hein, parce que je suis vraiment handicapé du pad là-dessus. Mais voilà, c'est mon petit conseil de la journée. En tout cas, c'est très rigolo, ça fonctionne bien. Et encore une fois, c'est gratuit, donc pourquoi se priver ?
Allez, on passe du côté des apps et on reste dans le gratuit avec Vivaldi 3.6 et ses nouveaux onglets.
Ah là là, Vivaldi, le navigateur le plus configurable de la planète. Le tableau d'options fait flipper les gens et met en joie certains programmeurs de sites web que je ne citerai pas, c'est le Mr. P. Mr. P, qui s'occupe de Geekzone, pour ceux qui n'ont pas suivi la private joke, qui est vraiment un gros fan de ce navigateur. Là, ils nous ont rajouté un truc, alors c'est expliqué dans la page promotionnelle que j'ai linkée encore une fois dans le billet qui accompagne le podcast, mais en gros, ils ont mis des tabs dans vos tabs, c'est-à-dire que avant il y avait un système de stacking, c'est-à-dire d'empilage d'onglets qui était déjà en place, mais qui était pas très pratique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez un onglet, vous pouviez avoir des onglets au-dessus de votre onglet avec des petits traits pour vous dire que vous aviez stacké des onglets dans ce truc-là. Ça n'a pas l'air clair comme ça quand j'en parle, parce que c'est pas clair non plus quand on l'utilise. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on savait jamais vraiment quelle ligne était. Il fallait les attraper à manipuler. C'était pas agréable, tu vois. C'était vraiment trop, c'était vraiment trop petit. C'était pas très, très, très bien fichu. Et là, donc, ils ont rajouté, en fait, un truc tout con. C'est qu'en fait, ils ont rajouté une deuxième barre d'onglets, c'est-à-dire que quand tu ouvres une page genre Geekzone et que tu veux aller lire d'autres news, tu peux les grouper en fait. Si au bout d'un moment t'as, je sais pas, 5 onglets d'ouvert sur n'importe quel site, on s'en fout, tu peux les sélectionner et tu peux te dire ok, ça c'est la même stack en fait, et ça va te les mettre dans une deuxième barre en dessous cet onglet. Et quand tu switches en fait, ça va te faire comme des intercalaires de classeurs si tu veux. Tu vas pouvoir t'y retrouver un petit peu plus facilement en fonction de comment tu as groupé les choses. Alors évidemment c'est pas automatique, faut le faire une fois, en tout cas faut l'activer au démarrage quand tu es en train de, quand tu t'aperçois que tu as ouvert 150 onglets et que c'est commencé vraiment à être le bordel. Ne faites pas ça, arrêtez de faire ça. Et puis du coup là la présentation est quand même beaucoup plus claire, et surtout ça fonctionne très bien dans tous les modes de configuration de Vivaldi, parce que Vivaldi en fait offre la possibilité d'avoir les onglets sur les côtés, etc. Donc c'est plutôt bien pensé de ce côté-là, et je sais qu'il y a des gros gros fans, donc comme ça a fait partie des navigateurs alternatifs sympas, il était important d'en parler.
Ouais, puis c'est un navigateur alternatif avec le moteur Chromium, donc pour ceux qui ont du mal à lâcher Chrome, et ben on vous invite à tester Vivaldi, hein, plus que jamais.
Exactement.
Allez, on va parler Plex Arcade, hein. C'est quoi, c'est nos amis de Plex qui se lancent dans l'émulation.
De la merde.
Bah voilà, au moins c'est clair, on aurait pu mettre un jingle, tu vois.
Ah non, mais alors, bon... je vais essayer de faire ça calmement. Plex, vous savez que j'aime beaucoup ce logiciel qui sert de galerie multimédia, qui va indexer vos vidéos, qui va vous proposer tout plein de services. Depuis un moment, ils sont dans une dynamique de on va rajouter des trucs que vous avez pas demandé. Alors, quand ça concerne la vidéo, c'est pas très grave. Ils ont mis effectivement un service de télévision, entre guillemets, de série à la demande, une sorte de Netflix, des trucs que personne ne veut, qui vous pouvez regarder gratuitement en échange de vous fader quelques pubs. Alors moi, j'ai jamais vu les pubs parce que je pense que mon système anti-pub à la maison fait son boulot. Mais j'avais même pas fait exprès, on va dire. En gros, vous avez un catalogue qui est pas terrible, mais qui est là, qui peut être distrayant, on va dire. Et puis surtout, si vous avez pas envie de l'afficher, vous l'affichez pas. Et ça dégage. Ça va être pareil pour Plex Arcade. Mais là où on n'est pas trop d'accord, la communauté et Plex, on va dire, c'est que Plex Arcade est basé... Donc, qu'est-ce que c'est Plex Arcade ? C'est un service qui est rajouté à l'intérieur de Plex, qui va vous permettre, en tout cas, c'est la promesse, de jouer aussi facilement à des vieux titres de jeux vidéo, des vieilles gloires, puisqu'on parle là dans le truc de base d'Atari 2600... donc en streaming directement sur votre télé sans vous prendre la tête à avoir un émulateur à côté, par exemple. Sauf que, bon, déjà, on lui a pas demandé de faire ça. Deuxièmement, si vous avez Plex sur n'importe quelle box, vous n'avez pas forcément un pad de configurer. Votre truc est pas, votre setup est pas du tout prévu pour jouer en fait. Et il est prévu pour consommer du média classique et vous n'avez pas non plus forcément tout installé pour faire du jeu vidéo avec votre truc. Donc déjà le choix est un petit peu chelou. Et ensuite, c'est un abonnement. Donc en fait, même si vous avez un abonnement lifetime pour accéder à ce genre de truc, il va falloir payer. Et payer cher. C'est-à-dire que la base, on est quand même en train de parler d'un catalogue de jeux un peu pourri, pour pas dire complètement nul, et ça va vous coûter quand même entre $5 par mois, et en fonction du fait que si vous avez un Plex Pass, on va vous demander que $3 par mois. Waouh, trop la chance. Tout ça pour pouvoir jouer, attention, à 27 jeux Atari. Donc, c'est Atari qui va se mettre de la thune. Hein. Évidemment, parce que Atari, je vous rappelle que Atari, c'est quand même géré par des escrocs depuis un moment. C'est les mêmes qui font la, c'est les mêmes qui font la console pourrie, là. Alors qu'elle est pas si pourrie que ça, au final. Ouais. Mais qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est.
C'est ça.
Donc, la fameuse console rétro gaming qu'on a déjà étrié dans ce podcast. Donc là, le truc commence à être un peu compliqué. Et les mecs te disent, mais oui, mais c'est génial, car avec notre système, tu peux installer tous les émulateurs que tu veux, et puis tu pourras y jouer, et ça sera trop facile. Mais bon, quand tu continues de payer quand même. Et puis là, tu creuses et tu t'aperçois qu'en fait, bah, pour pouvoir faire tout ça, tu vas te démerder pour installer, tout bêtement, le service RetroArch. Donc,
autant le faire toi-même sur un Raspberry Pi. Et voilà.
Autant sur ce que tu veux même, puisque oui, RetroArch tourne absolument partout. Et puis, en fait, la valeur ajoutée de leur truc, elle est de zéro. C'est-à-dire qu'en plus, le produit, la façon dont ils ont de le présenter, t'as quand même un problème de customisation, t'as un problème de latence. Et on va dire que le plus produit qu'ils te disent, c'est que oui, mais une fois que c'est installé, tu peux y jouer sur ton téléphone, tu peux y jouer sur ta tablette, tu peux y jouer quand t'es pas à côté de ton serveur. C'est-à-dire le truc qui est un des plus de la valeur ajoutée en fait de Plex en général, même pour vos séries télé. Les séries télé, pour ceux qui savent pas, avec Plex, comme le serveur et les players ne sont pas jumelés, on peut imaginer, voilà, on part en vacances avec les gamins, boum, on peut télécharger les séries dans l'iPad et se barrer, et tout va bien. Et ça sera synchronisé, qui a regardé quoi quand on rentre. Génial, c'est un service qui marche très bien. On aime beaucoup. Là, le fait de faire ça en jeu vidéo, bah, ça va quand même ramer sévèrement, et puis, du coup, ça perd un petit peu de son sel quand tu veux faire un jeu tranquillou. Et puis, la méthode pour rajouter des jeux et rajouter des corps d'émulation qui viennent de RetroArch, elle est méga casse-couille. C'est-à-dire que globalement, il faut tous taper à la main, c'est absolument pas automatisé. À partir du moment où tu demandes de la thune aux gens pour faire ton truc, ça serait pas mal.
Voilà. Ça aurait été pas mal de faire un truc à la GOG où tu veux un jeu, tu joues, et puis eux se démerdent derrière pour faire l'émulation sans que t'aies à mettre les mains dans le cambouis, quoi.
Exactement. Donc là, les mecs te disent, oui, mais tu peux mettre tes ROM et tout, machin. Oui, très bien, je peux faire mes trucs dans l'illégalité la plus totale, c'est comme ça d'habitude, mais me demande pas l'argent, du coup.
C'est ça.
Tu vois? Oui, c'est trop mignon de vouloir me faire jouer sur mon téléphone, mais déjà, j'en avais rien à foutre et je vous ai pas demandé le truc. Donc, c'est très, très bancal comme système. Ça se fait étrier dans papier d'Ars Technica que je vous ai linké. Alors, j'ai essayé le truc et je confirme tout ce qu'il y a dans le papier. Et très honnêtement, moi, de toute façon, les mecs, il faut payer le boulot des autres, parce que finalement, sans le boulot de tous les corps d'émulation de RetroArch, bah il n'y a pas de produit. Allez bien vous faire, voilà. Hein. Donc, je suis vraiment très, très déçu de ce move de Plex, et qui ferait mieux de nous configurer certains menus de navigation qui sont quand même pas optimisés et pas super malins dans les dernières interfaces, plutôt que nous balancer ce genre de truc que personne n'a demandé. Voilà.
Allez, on va passer à Tweetbot. C'est quoi, c'est une nouvelle version?
Ah oui, tiens, Tweetbot 6, donc le meilleur client, eux aussi m'ont agacé, ça tombe bien, là, je suis lancé, je suis chaud. Tweetbot 6, c'est donc le meilleur client Twitter non officiel qui existe sur la planète. Tweetbot en général, je veux dire, si vous êtes sur le 5, vous savez déjà que c'est un très très bon produit. La problématique qu'on a avec tous les clients alternatifs de Twitter, c'est qu'ils sont tous basés sur une API qui est pas vraiment supportée, pour pas dire moribonde, parce que Twitter ne s'en occupe plus, ne veut plus la développer, ne veut pas la mettre en avant, puisque eux, leur but, c'est de vous vendre leur feed à eux avec les pubs à l'intérieur. Mais ils ont quand même développé une API 2.0 qui est un petit peu moins nulle et qui surtout va être amenée normalement à évoluer, car ils auraient peut-être éventuellement changé un peu leur fusil d'épaule. Donc du coup, Tweetbot 6, c'est en fait une version Early Access, mais qui est Early Access pas pour votre porte-monnaie, puisque donc ils sont passés sur un abonnement cette fois. Alors si vous ralliez déjà sur le prix de Tweetbot à la base, là, je vais vous entendre crier de très loin, puisqu'on part sur un abonnement à 6,50€ à l'année, voire carrément 1€ par mois, sinon. Donc vous avez plutôt intérêt à le prendre à l'année, on est d'accord. Et en plus, donc, comme on est sur de l'Early Access, il y a pas mal de trucs qui sont encore pas super efficaces, mais en revanche, on récupère la visualisation, par exemple, des sondages qui n'étaient pas possibles dans l'ancienne API. Tu voyais des posts, vous préférez plutôt. Puis bah voilà, fin du tweet, tu vois.
Ce qui était parfois plus intéressant que le tweet en lui-même.
Pas faux, ça me distrayait plus en tout cas. Je me demande bien ce qu'il a pu demander. Hein. Bah là là, fouf, je vais peut-être aller voir. Non, j'allais jamais voir. Donc du coup, je suis quand même intéressé pour voir ce que ça va donner, parce que comme c'est d'Early Access, moi j'attends de voir ce que va donner l'API 2.0. Mais en attendant, c'est vrai que c'est pas donné. Alors je vous confirme que sur les différents stores, ça se fait étrier. Quand je dis les différents stores, c'est les différentes langues de l'Apple Store. Je crois que là, le tweetbot 6, il tourne à 1 étoile de moyenne. Hein.
Pas mal.
Le passage en abonnement s'est bien passé. Donc, je suis un peu circonspect sur le Move. Pour une autre raison, c'est que le passage en abonnement, pourquoi pas? Tu vois, il y a un autre soft très connu dans l'univers Mac qui a fait ça, qui s'appelle Fantastical. Mais eux, ils sont passés en abonnement en rendant gratos toutes leurs versions. C'est-à-dire, la version Mac était prête en même temps. Les versions iPad, qui est dédiée à l'iPad, étaient prêtes en même temps, etc. Donc, tu payes l'abo, t'avais l'accès à toutes les versions. Ce qui est déjà un petit peu moins débile. Tweetbot, historiquement, faut l'acheter sur toutes les plateformes. Et c'est genre, c'est 10 balles sur Mac. Enfin, au moins 10 balles, tu vois. Donc, c'était pas donné, quoi qu'il arrive. Mais là, le fait d'avoir une version sur abonnement, alors que la version Mac est toujours la version antérieure, toujours basée sur l'API 5.0, qui est donc pour l'instant pas une version Mac qui soit à parité avec la version iOS, et demander cette thune-là en même temps, bon, bah, c'est quand même pas le meilleur move de la Terre. Alors, il y a quelques clients alternatifs, les gars, dont Twitterific, ce genre de choses. Donc, il y a quand même des options, en tout cas dans l'univers iOS. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, si en plus il n'y a pas accès à plus de trucs dans cette version-là, ça va être compliqué de faire payer les gens, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas les DM de groupe, par exemple, même si c'est moins utilisé, j'ai l'impression, maintenant. Il manque pas mal de choses qui sont vraiment réservées à l'API Twitter officielle, auxquelles les développeurs n'ont pas, enfin, les développeurs de produits annexes comme ça n'ont pas accès, donc ça va être un petit peu compliqué à terme.
Allez, on passe du côté de la culture, et je voulais vous parler d'un duo qui s'appelle Bicep, hein, comme un bicep, qui est un duo donc originaire de Belfast, en Irlande du Nord, qui a émigré à Londres ensuite, et qui est composé d'Andrew Ferguson et Matthew McBriar. C'est leur deuxième album. Ils avaient sorti un premier album éponyme en 2017 chez Ninja Tune. C'était d'ailleurs celui que j'avais, qui m'avait permis de découvrir le groupe. Alors, c'est quoi Bicep? C'est de la musique électronique, mais très typée fin des années 90, début des années 2000. Moi, ça me fait beaucoup penser à Orbital, mais aussi avec des emprunts aux autres ténors de l'époque. Hein. Il y a la rythmique dans le morceau qu'on va écouter tout à l'heure, qui fait beaucoup penser à Autechre. Bref, si vous aimez la musique électronique et que vous n'aviez jamais entendu parler du groupe, Isles, toujours chez Ninja Tune, est un excellent point d'entrée. L'album s'écoute d'une traite, c'est mélodique, c'est bien produit, et comme je le disais, il y a ce petit côté nostalgique de l'électro d'il y a 20 ans déjà, donc moi ça me parle. On va s'écouter la plage d'ouverture de l'album, en tout cas un extrait, le morceau s'appelle Atlas. Atlas, donc tiré de l'album Isles de Bicep, sorti il y a quelques jours, c'était au début du mois de janvier si je dis pas de bêtises. Alors l'album est disponible sur Bandcamp, ce qui va me permettre de faire une transition nickel avec la suite, puisqu'on va reparler des Bandcamp Fridays. Alors c'est quoi les Bandcamp Fridays? Eh bien depuis mars 2020, en réponse principalement à la pandémie qui plombe quand même pas mal le secteur culturel, le portail de vente Bandcamp a lancé les Bandcamp Fridays, donc tous les premiers vendredis du mois, en fait, ils reversent l'intégralité des montants perçus aux artistes. En gros, ils lâchent leur bénéf et donc ils permettent aux artistes qui vendent ce jour-là d'empocher 100% de la mise et pas 90% comme c'est le cas d'habitude. Donc c'est une des nombreuses raisons qui font que moi j'aime beaucoup la plateforme, qui est sans doute une des seules à soutenir vraiment authentiquement les artistes. Et je voulais donc reparler des Bandcamp Friday. Si vous voulez par exemple acheter l'album Isles de Bicep aujourd'hui, eh bien faites-le puisque c'est un Bandcamp Friday. Et si vous avez un doute, ils ont mis en place un site dédié qui s'appelle isitbandcampfriday.com et où vous avez tout simplement la réponse, savoir si c'est aujourd'hui un Bandcamp Friday ou pas. Voilà, moi je trouvais ça plutôt chouette, donc je voulais en parler. Et puis là, je vais utiliser ton jingle si tu n'y vois pas d'objection, parce que j'ai un coup de gueule à pousser.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Et oui, c'est de la merde. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est de la merde? Je voulais pousser un coup de gueule, en fait, parce que on adore, enfin, moi, en tout cas, j'adore le boulot de Christophe Beck, le compositeur, donc, qui avait bossé sur Ant-Man et qui fait la BO de WandaVision. Et j'étais très impatient de pouvoir acheter, la bande son, tout simplement, comme ça avait été le cas pour Mandalorian, hein, puisque c'était disponible en général après la sortie de l'épisode. Ce qui fait que là, on se retrouve, en fait, avec deux hippies pour les deux premiers épisodes à $9 pour 9 minutes de musique. Donc ça fait super plaisir, hein, c'est un peu abusé, au moins la bande-son de Mandalorian, ça tournait plutôt autour des 25 minutes, donc on se faisait pas trop gruger. Ils avaient même carrément abandonné le système pour la saison 2, puisque là ils avaient sorti en fait ça en deux parties, première partie de la saison 2, deuxième partie de la saison 2, et je pensais qu'ils allaient honnêtement faire pareil pour WandaVision, et ben non, ils sortent ça par épisode à $9 pour 9 minutes de musique, donc pas merci Disney. Ça va pas non plus rendre service à Christophe Beck, hein, parce que nous on aurait bien voulu soutenir son boulot, mais là ça va pas être possible. Donc on espère que ça va ressortir à la fin de la série dans une édition avec un prix un poil plus raisonnable si c'est possible, monsieur Disney, ça nous ferait plaisir. Et puis c'est là que normalement je dois partir en courant parce que en fait il avait oublié et il s'en est souvenu à la dernière minute, malheureusement pour moi. Mais donc Kev, tu voulais nous parler de K-pop.
Ah ouais, enfin. Ah bah écoutez, là oui, le podcast va doubler de temps là, je crois qu'on est on ouais, un peu de temps devant toi ou pas. Le pauvre, il est là genre non. En plus, tu vois, je me suis dit pour la première, on va faire un truc extrêmement coréen, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mensonge, on ne va pas parler de K-pop aujourd'hui. On va parler de musique coréenne, mon ami.
Tu joues sur les mots.
Ah, j'aime bien faire ça. Je vais être obligé. Voilà, je vous instruis, je vous apprends des choses. Je vais vous parler d'un génie en plus, enfin une génie en l'occurrence, qui s'appelle Song Soi, qui est en fait une des, enfin des, un des trésors, on va dire. Elle est considérée en Corée du Sud comme un des trésors nationaux, comme certaines autres stars extrêmement connues et populaires actuellement dans d'autres domaines. Mais en fait, pourquoi? Parce que elle fait un truc qu'aucune, enfin aucune. Très peu de jeunes filles font, et en plus carrément pas à son niveau, elle chante du gugak. Qu'est-ce que c'est que ce truc que t'es en train de te dire? Là, je me suis marqué en gros, tu verras après, entre tradition et modernité, parce que d'habitude, elle fait vraiment dans la tradition, elle. Hein. Donc,
On dirait le nom d'un plat national d'un pays de l'Est, tu sais.
Mais en fait, gugak, ça veut dire littéralement musique nationale. Donc tu peux pas, tu vois, t'es vraiment en plein dedans. C'est le style traditionnel des chansons coréennes, qui est un truc extrêmement bizarre pour nos oreilles, parce que vraiment, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce que nous on connaît. D'ailleurs, on n'a pas d'équivalent réel en fait à un truc aussi typé en fait, en tout cas en France. C'est assez impressionnant. Et elle cartonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle en fait depuis qu'elle a 5 ans. Elle a gagné son premier concours à la télévision nationale à 11 ans. Et là, elle en a 20. Et bon, c'est une star nationale assez intestable en Corée, et elle cartonne en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent mise en avant dans une émission qui s'appelle Immortal Songs 2, ou Immortal Songs Singing the Legend, qui est un concept, c'est l'émission, tu vois, c'est le truc qui passe le dimanche. C'est, t'imagines un Jacques Martin pas chiant en fait, qui est inévitable. Le concept, c'est tu prends une légende de la musique coréenne, alors ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être des gens qui étaient des stars dans les années 50, mais ça peut aussi être là, ils ont fait un épisode récemment qui a fait, d'ailleurs, qui a vachement popularisé l'émission, qui est une surprise, sur BTS, le groupe inarrêtable actuellement, qui est en train de cartonner sur toute la planète. Et au lieu BTS, tu vois, c'est un peu compliqué de les avoir sur ton plateau. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait venir les mecs qui ont fait les chansons, et il y a plein d'artistes qui sont des habitués ou pas d'ailleurs de l'émission, qui ont défilé et qui ont fait des reprises de ce truc-là. Ce qui est impressionnant et ce qu'on verra jamais chez nous, c'est que déjà, les mecs ont tous des niveaux assez hallucinants, les mecs et les nanas d'ailleurs, hein. Et derrière, ils ont à chaque fois des shows, enfin il y a un vote en fait, t'as une personne qui va passer, la personne d'après va être votée par le public pour ou contre, tu vois, et c'est un truc de compétition dont finalement tu t'en fous en fait, hein. Ce que tu veux, c'est juste voir les gens qui défilent et profiter de toutes les performances. Et la blague, c'est que tu as vraiment un taf de taré, parce que chaque chanson, chaque morceau est réorchestré, réarrangé, modernisé. Sur la, ça dépend de ce que ça va être, mais à chaque fois il y a un taf de taré, il y a une scénographie de taré avec une chorégraphie, des danseurs, tout est live, contrairement à plein de shows de musique. Donc, pour jauger de la capacité de certains chanteurs, c'est assez balèze. C'est d'ailleurs pour ça que t'as pas mal de groupes d'idol ou machin qui ne vont pas là-bas. Parce que c'est un petit,
se voir.
Ça, voilà. C'est un petit peu. Alors, même si c'est pas si vrai que ça de nos jours, mais il y a des groupes qui cartonnent comme Mamamoo qui ont fait justement leur réputation grâce à ce show aussi. Et t'en as qui font genre, non, moi, je vais pas y aller, hein. C'est, voilà. Et donc, elle a fait un truc qui m'a fait crever de rire. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Et je voulais vous parler du show parce que j'adore ce truc-là, même si la chaîne nationale KBS ne le met plus avec les sous-titres sur YouTube, ce qui, bref, ça m'a fait gagner du temps en même temps, hein, mais je suis un petit peu frustré maintenant. La Song Sui en question, elle s'est dit, j'en ai ras le bol de faire des trucs tradis, je vais faire un truc à moi. Et donc, elle se pointe avec une chanson traditionnelle qu'elle a complètement modernisée, je vous ai mis le lien de la perf sur YouTube, qui me fait assez délirer, qui s'appelle Polak. Alors, Polak, pour ceux qui parlent pas anglais, en fait, c'est le colin, en fait, hein. C'est une chanson à la gloire du poisson, qui fait manger. Et oui, les gars, les vrais messages. Et pourquoi j'ai dit entre tradition et modernité, et pour une fois, c'est pas le Japon, c'est juste parce que vous laissez le truc se dérouler, vous allez voir qu'elle s'est fait plaisir. Il y a une équipe de danseurs bien tarés avec, et c'est vraiment, c'est juste un truc rigolo à regarder, qui n'a rien à voir avec ce qu'on visualise quand on parle de justement de musique coréenne, parce que voilà, on va tout de suite visualiser K-pop et compagnie. Et donc, c'est assez rigolo de se manger ce truc-là. Et puis, surtout, j'avais dit la semaine dernière que je viendrais avec un truc, vous étiez pas prêts. Et là, je vois pas comment vous pouvez être prêts, tu vois. C'est juste pas possible. Et la semaine prochaine, je te laisse respirer, mais je viendrai avec des rappeurs, des choses un petit peu violentes. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir des trucs. On va vous décrasser les cages à miel, comme disait Zégut quand j'étais sur RTL.
Je crois que j'aurai piscine la semaine prochaine. Il faut que je vérifie.
Tu viens là, tu me parles de tes trucs électro qui font dormir, hein, tu vas venir un petit
ça
peu.
Ça fait pas dormir. Oh là là.
J'ai décidé d'être de mauvaise foi si je voulais, mais ça, c'est de la faute de Plex Arcade, hein. Moi, je décline toute responsabilité cette semaine.
Je suis en train d'imaginer l'équivalent de ce genre de programme chez nous avec des reprises d'upstep de Frère Jacques et ça me fait vraiment pas envie du tout, en fait.
Non, mais parce qu'en fait, il y a un truc très différent là-bas, c'est qu'ils sont 50 millions déjà, ils sont, je sais pas combien à savoir chanter, avec du talent. Et quand tu vois ce que nous on a, c'est très compliqué. Je pourrais vous faire un podcast entier sur la qualité des émissions musicales coréennes pour un pays de 50 millions de personnes. C'est juste débile.
Tu sais qu'il y a des gens qui vont te le réclamer, ça.
Abonnez-vous sur le Patreon. Et venez m'en parler. Venez m'en parler dans les commentaires du Patreon.
Allez, on va conclure cette section culture avec une surprise, en fait, parce que moi, je m'y attendais pas du tout. De quoi on va parler ? On va parler de Resident Alien, c'est la nouvelle série sci-fi. Alors, j'avais vu le trailer, et toi aussi, d'ailleurs, et ça nous avait pas vraiment emballé. En fait, on avait un petit peu peur, quand même.
Ouais, moi, j'ai vu le teaser à la base, et je me suis dit, bon, je sais pas, parce que j'aime beaucoup le mec, et du coup, voilà, enfin, tu vas expliquer, et j'étais un petit peu inquiet.
Le truc, c'est que le trailer le trailer qu'on a vu tous les deux, il y en a peut-être d'autres, hein, je sais pas, mais celui qu'on a vu faisait quand même la part belle à toutes les scènes un peu humoristiques, et donc on s'attendait à une espèce de comédie décalée avec une énième histoire d'aliens qui débarque sur Terre et qui essaie de s'intégrer. C'est pas tout à fait ça, en fait. Alors, c'est une série donc qui met en scène Alan Tudyk, dont on est gros fan depuis Firefly. Il a fait beaucoup de performances cap, hein, on l'a vu notamment dans Rogue One dans le rôle du droïde, donc là ça fait plaisir de le revoir en chair et en os, et en plus dans un rôle qui lui correspond à merveille. Alors, Resident Alien, à la base, c'est un comics qui était publié chez Dark Horse, qui a été créé par Peter Hogan et Steve Parkhouse, qui ont a priori fait que ça, si je dis pas de bêtises, en tout cas c'est leur principal truc, vous me corrigez dans le forum si je raconte de la merde, Archeon, c'est à toi que je pense, qui a été adapté ici pour la télé par Chris Sheridan, qui est un vieux de la vieille, monsieur a 53 ans et c'est un ancien vétéran de la série animée Family Guy, que moi j'ai pas suivi, donc je pouvais pas vous en dire plus à ce sujet là et en plus moi ça m'est pas spécialement motivé à regarder Resident Alien du coup, mais bon, alors de quoi ça parle. Tudyk incarne le docteur Harry Van Der Spiegel, ou plus exactement l'alien métamorphe qui a pris sa place et qui tente donc tant bien que mal de s'intégrer parmi les humains d'un petit bled des États-Unis qui est baptisé Patience, tout en tentant en parallèle de mener à bien sa mission secrète. Alors, je vous en dis pas plus sur la mission secrète parce qu'on l'apprend vers la fin du premier épisode. Et forcément, il a une attitude qui est pas tout à fait raccord avec les gens normaux, donc ça commence à semer un peu le doute, et notamment chez le shérif à qui on ne la fait pas et qui dès le début soupçonne un truc louche. Sans compter que notre ami Harry l'alien découvre assez vite que certains peuvent voir à travers son artifice métamorphe et donc le voit en tant qu'alien, notamment un gosse qui croise dans la rue qui se met à hurler, donc ça va pas simplifier les choses. Alors ça sonne, comme je le disais, comme un scénario poisson hors de l'eau. La bande-annonce m'avait pas vendu le truc, j'y suis allé un peu à reculons, et au final j'ai trouvé ça excellent, parce qu'en fait il y a aussi un côté beaucoup plus c'est difficile à dire, ça, un mélange des genres en fait, c'est-à-dire que oui, il y a des scènes drôles et il y a des scènes effectivement qui jouent sur le ressort du poisson hors de l'eau. Quand il y a une scène notamment qui est très cool, qui est très humaine, qui fait un peu penser à ce qu'on ressent dans Ted Lasso, dans un bar où il se met à danser, etc. Enfin, je vous en dis pas plus, mais il y a des moments vraiment humains et touchants. Et puis à côté de ça, on a un alien qui est quand même globalement un putain de psychopathe. Donc, ça jongle un peu entre ce côté, oui, il est mignon et tout, mais en même temps, il a pas l'air très gentil. Et ça marche super bien. Moi, j'ai passé vraiment un excellent moment. C'est un peu un roller coaster. Donc, j'espère que ça va continuer par la suite, parce que là, on a qu'un seul épisode, donc j'ai toujours un peu de mal à vous recommander des séries qui sont bien sur le premier épisode et qui puis après partent complètement en sucette. Lovecraft Country, je pense à toi notamment. Mais donc voilà, ici ça a l'air quand même assez prometteur. C'est pas toujours rigolo, mais quand ça l'est, c'est drôle aussi. Il y a une scène, je vous en dis pas plus, mais il y a une scène avec deux flics dans une bagnole. Moi, j'étais plié de rire. Donc voilà, c'est bien écrit, c'est bien rythmé, c'est drôle et c'est un peu mystérieux, bizarre quand même. Donc ça m'intrigue et ça me plaît. Et forcément, Alan Tudyk est parfait dans le rôle puisqu'il fait des mimiques absolument tout le temps et ça fonctionne super bien.
Il est bon là-dessus.
C'est sur Sci-Fi et malheureusement pas d'annonce de diffusion par chez nous pour le moment, donc faudra vous rabattre sur votre ami Bob VHS.
Mais je viens de lui passer un coup de fil, moi personnellement, voilà. Au moment où tu faisais le truc, je l'ai fait et c'est en cours.
Voilà. Donc Resident Alien, je vous linkerai la bande-annonce, mais donc ne vous fiez pas à la bande-annonce. Moi, je serai vous, j'irai voir le ne fût-ce que le pilote par curiosité, puis si vous vous accrochez pas du tout, passez à autre chose. Mais je pense que ça devrait en ferrer plus d'un sur Geekzone en tout cas. Allez, on passe du côté de la tech, puisque Apple se fait encore plein de sous.
Ouais, en fait, c'est la période d'annonce des résultats de chez tout le monde, en fait. Hein. Donc évidemment, les résultats les plus attendus, les plus scrutés, sont ceux de la plus grosse boîte de la planète. Donc Apple, évidemment. Et puis, en pleine pandémie, on se disait, ah là là, comment ça va se passer? Bah, ça s'est plutôt pas trop mal passé puisqu'ils viennent de faire leur plus gros trimestre ever. Et quand je dis le plus gros trimestre, c'est que juste, c'est n'importe quoi, là. Ils se sont fait un petit truc au-dessus des 100 milliards en un trimestre. Hein. Donc, 111, hein, pour être tout à fait précis, mais on compte plus, tu vois, les dizaines de milliards.
Mais c'est quoi, du coup? C'est la pandémie? Les gens ont racheté des laptop.
Alors en fait c'est tout, c'est ça qui est un truc de dingue, c'est-à-dire que tout a explosé chez eux. Ils ont fait un carton sur l'iPhone 12, toutes les variantes de l'iPhone 12 ont cartonné. Ils se sont plus offerts au passage, je sais pas si vous vous rappelez, oui, Apple en Chine, ça va être compliqué maintenant, où ils ont fait plus 52% en Chine. Donc vous pouvez remballer toutes vos analyses à deux balles. L'iPhone aujourd'hui, ça représente 65,6 milliards en fait. Même les analystes avaient tablé sur 60, enfin excuse-moi, ils avaient tablé sur 59,8, je sais pas comment les mecs, comment ils arrivent sur leurs chiffres, ça me fait toujours marrer. Faites des trucs ronds au moins, soyez pas ridicules, quoi. Personne n'est dupe. Donc 65,6, c'est juste énorme. Et évidemment, il y a eu tout le refresh de la gamme, donc avec le nouveau design, c'est ce qui fait que ça a cartonné, mais c'était un petit peu attendu. Le produit est bon, il est un petit peu moins cher sur certaines gammes. Voilà, ça s'est fait plaisir et tout le monde est bloqué. Et je vous rappelle que les gens ont dit, les analystes ont dit, en plus, les gens sont pas sortis, donc ils ont un peu plus de thunes. Donc apparemment, un des postes de dépense, ça a été l'iPhone 12, salut Coldo. Donc du coup, il y a pas mal de gens qui se sont fait plaisir d'un côté, mais on a aussi un énorme carton de l'iPad. Il y a eu l'iPad Air, le refresh qui est sorti, donc ça, l'iPad, c'est plus 41% ce marché-là, tu vois, si tu compares par rapport à l'année dernière. Donc je confirme qu'il y a pas mal de gens qui attendaient un produit du style de l'iPad Air pour se faire plaisir. C'est juste pour vous donner quand même une petite comparaison, l'iPhone, 65,6 milliards, l'iPad, c'est juste 8,44 milliards. Mais retenez ce chiffre quand même, vous allez comprendre pourquoi après. Et du coup, pour tout ce qui est service, etc., on est juste sur un petit 15,7 milliards. Voilà.
Hein, okay.
Tous les services d'abonnement divers, les TV+, les Apple Arcade et compagnie, Apple Music. Je pense qu'Apple Music représente un gros morceau du truc. Et puis, il faut rappeler que donc ils ont sorti les nouveaux Mac à base de processeurs M1. Et qui sont toujours en flux tendu. Hein. C'est pour en avoir un, c'est 15 jours, 3 semaines, je crois. Donc en ce moment, bon, y a les problématiques de livraison depuis la Chine, etc. Mais bon, ça se vend très, très, très bien. Et c'est pareil, ça a fait plus 21%. Donc on est quand même sur un pareil, 8,68 milliards de dollars. Tout ça à chaque fois, c'est pas l'année. Hein. Je rappelle que c'est le trimestre. Hein. C'est pour vraiment que votre cerveau essaye de d'en gérer ces informations. Et puis l'Apple Watch, petit marché de la montre là, le truc, oui, mais bon, ça sert à rien et tout. Bon, c'est 13 milliards. Je vous fais un prix gros. J'arrondis maintenant. 13 milliards, ça va, c'est pas mal. Donc c'est les wearables en fait. Hein. Donc quand je dis ça, je suis pas très gentil parce qu'en fait c'est Apple Watch et AirPods. Et je pense que les AirPods,
oui, ça doit bien aider, ouais.
Ça doit bien aider. Mais on est quand même sur 29%, et quand on sait que la Watch, de toute façon, c'est le plus gros marché de la montre au monde maintenant. Bon, voilà, la question, elle est vite répondue, comme on dit chez nous maintenant. Donc malgré le Covid, ça s'est plutôt bien passé. Et pourquoi je vous ai dit retenez ces chiffres? C'est parce que AMD aussi a annoncé ces chiffres. Et AMD gagne beaucoup d'argent maintenant, surtout par rapport à... Je vous rappelle qu'AMD a failli crever quand même un certain nombre d'années de suite, donc on est très content. Et en fait, bah, pour vous donner une idée, c'est que AMD est hyper content d'avoir gagné sur ce trimestre 3,2 milliards. tu vois la différence d'échelle, de trucs. Ouais. Et pourtant, AMD, c'est une boîte qui est énormissime. On parle des mecs qui font les processeurs pour toutes les consoles, pour nos PC qui cartonnent en ce moment.
Oui, puis c'est ATI aussi maintenant, AMD. Donc,
bah voilà, toutes les cartes graphiques AMD. Enfin, tu vois, il y a un peu de matos quand même. Hein. Ouais. Il y a plein de trucs. Donc, on est vraiment sur des volumes qui n'ont rien à voir, ce qui est assez... Et puis, des marges aussi. Voilà. Du coup, c'est quand même assez impressionnant. Donc, évidemment, c'est pas la thune gagnée hein, que je vous annonçais tout à l'heure. C'est les revenus. Dans la news Ars Technica, dont je tire ces chiffres, vous avez des bénéfices, etc. Si vous voulez voir combien ils ont gagné vraiment d'argent, spoiler alert, beaucoup. Ça se passe plutôt pas mal. En revanche, on apprend aussi un autre truc moins drôle dans les revenus d'AMD, c'est que Lisa Su, la patronne de la boîte, a confirmé que nous ne verrons pas en masse de consoles PlayStation 5 et Xbox et compagnie facilement disponibles avant la moitié de l'année.
D'accord.
Puisque comme prévu, tout le monde est super 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 tendu au niveau des livraisons et ils essayent de satisfaire tout le monde. Mais c'est compliqué parce que TSMC, ils ont bien essayé de tout optimiser, mais c'est eux qui fabriquent pour tout le monde actuellement et c'est blindé, ils ont plus de chaînes de fab de dispo. Et en plus, ils sont pris un petit lobbying sur la gueule TSMC. Alors ça, c'est pas dans la conduite, hein, mais je vous le dis parce que ça fait plaisir. C'est que TSMC, en gros, ils ont été un petit peu convoqués par les instances taïwanaises en disant « Dis donc, on a nos potes qui fabriquent des voitures là dans des petits pays, genre les États-Unis, qui aimeraient bien avoir des chips pour leurs machines, pour leurs bagnoles, parce qu'ils ont des chaînes de production qui sont bloquées à cause de ça, et ça le fait pas, en fait, ils sont pas contents. » C'est la première fois que ça arrive, hein. Il y a plusieurs marques qui ont fait du lobbying auprès des gouvernements pour que le gouvernement aille gueuler chez Taïwan, à Taïwan. Tu vois, ça prend des proportions assez hallucinantes, et on est sur cette problématique un peu partout, et donc c'est un petit peu compliqué, et je pense que nos cartes graphiques, c'est pas pour tout de suite, rapport à ce qu'on va annoncer. D'ailleurs, je te propose qu'on change l'ordre, regarde, on va faire un truc magique, en direct live sur la conduite. Voilà, comme ça on peut enchaîner sur, je te laisse l'annoncer,
la guerre des composants.
Ah oh ouais, tu peux me faire ça avec une petite
je
voix de trailer.
Une petite
tu me fais une petite voix de trailer là. La guerre des composants. Nous sommes en 2021.
Ça, et c'était avant. Now.
Non, c'est la merde, les gars. Donc, je continue dans la même mouvance. Ces prix ne vont pas baisser tout de suite. Et ce qui nous fait pas rire, c'est qu'en gros, il y a des rumeurs qui nous viennent de Chine, comme quoi les prix sur la RAM vont aussi augmenter après le nouvel an chinois. C'est le 12 février, c'est après-demain. Ça va aller très très vite, je veux dire. Et du coup, il y a plusieurs news qui corroborent cette problématique de gestion, cette problématique de production de la RAM au niveau mondial. C'est les rumeurs qui nous viennent de Chine et Samsung qui annonce que, les gars, on est quand même un peu tendu sur les chips, ça risque d'impacter la production de smartphones aussi. Tous les trucs dont je vous parle depuis des semaines maintenant, c'est pas vraiment une nouveauté, on s'y attend un petit peu. Mais a priori, c'est la merde sur la production de RAM GDDR6. La GDDR6X, la GDDR5 un petit peu aussi, et du coup ça va impacter pas mal de choses. Et évidemment, le truc auquel nous on pense sur Geekzone comme des gros gamers débiles, c'est que ma nouvelle GeForce, comment je vais faire, tu vois.
Il va falloir être patient, oui.
Parce que non, alors il va peut-être y en avoir, mais les prix risquent d'exploser.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que là on parlait de problèmes de tarification à cause de la disponibilité des CPU, enfin des GPU en l'occurrence. Mais si la RAM s'en mêle un peu violemment, on risque d'avoir des tarifs qui explosent. Donc encore une fois, c'est des rumeurs. Je vous ai linké donc la news d'Ars Technica qui prend en fait les informations directes de chez Samsung. Et puis l'autre site, il est en chinois, donc ce n'est pas très intéressant, mais ça a été repris un petit peu partout. C'est un site qui s'appelle MyDriver qui annonce que justement cette fameuse augmentation après le nouvel an chinois qui risque d'arriver. On en reparlera mi-février si ça se confirme. Et puis, bah, on prendra des actions chez Kleenex hein, pour pleurer, puisque je crois qu'on n'aura pas beaucoup de choix, en fait.
Ouais, vaut mieux les prendre chez Kleenex que chez GameStop. Et puis, on va terminer avec une petite news qui me fait beaucoup rigoler, parce que Nvidia donc, a décidé de nous simplifier la vie.
Ouais, en fait, ils ont simplifié la vie de leurs clients directs, c'est-à-dire les constructeurs. Il faut savoir que donc, il y a les RTX 3000, toutes les nouvelles GeForce RTX 3000 qui sont série 3000 qui sont disponibles pour les portables maintenant. Mmh. Donc, dans des versions évidemment castrées par rapport aux cartes classiques qu'on met dans des vrais PC, on en a déjà parlé. Mais du coup, on se dit, bon, bah, il doit y avoir comme d'habitude quelques versions. Non, il y a 28 variantes, les mecs. 28 variantes pour justement donner le choix au fabricant de, du type de puce qu'il veut mettre dans sa bécane. Est-ce qu'il veut privilégier l'enveloppe thermique, l'autonomie ou les perfs, tu vois. Mmh. Ce qui n'est pas forcément faisable avec toutes les bécanes. Et puis, à combien il veut marger aussi. Hein, parce que du coup, voilà, c'est plus pratique comme ça. Donc, c'est la confusion totale. C'est vite très, très relou. Et la blague, c'est qu'en plus, évidemment, quand vous faites un petit calcul rapide, vous vous dites, mais il n'y a pas autant de variantes à la base. Oui, c'est normal. Enfin, il y a les 3060, les 3070, les 3080. Mais là, à chaque fois, donc, on a des variantes en termes de consommation, etc. Genre des 3080, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, déjà, rien que ça. Enfin, c'est le bordel total. Il y a un petit tableau dans la news of Android que je vous ai linké. C'est assez rigolo. Et du coup, bah, ça va être un peu super chiant quand vous allez acheter un portable pour vérifier quelle version est réellement dans la machine. Et si c'est vraiment le truc que vous vouliez, vous, en tant que consommateur. Merci les gars de nous simplifier la vie. Bon, en même temps, ça sera jamais pire que les références pour un lave-vaisselle quand t'essayes de comparer entre les sites. Mais c'est vraiment, vraiment pénible et c'est pas très pratique. Pas merci Nvidia sur ce coup-là.
Bah non, 28 variantes de cartes. Il y a presque plus de variantes de cartes que de cartes en vente dans les commerces.
Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Oh, bim, les gars.
Et on va terminer là-dessus. Allez, hop. Et c'est la fin de ce 163e épisode de Torréfaction et pas 164e comme je le disais en ouverture. On aurait dû rien dire en fait et laisser se poser la question genre, putain, j'ai loupé un épisode, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je suis pas à jour. Mais non, pas du tout. Nous sommes taquins. Voilà. Et fin, voilà, 164, ça sera la semaine prochaine. Et il y aura peut-être encore de la K-pop, on sait pas. J'ai dit que ça serait peut-être pas la semaine prochaine, mais maintenant, ce que j'aime bien, c'est taquiner mon fast-kill, tu vois.
C'est me surprendre. Voilà. Rajoute dans la conduite à la dernière minute, voilà. Comme ça, je peux rien dire.
Le mec, il est là, genre, non! Et si, mais tu vas voir, tu vas finir par aimer ça, tu n'auras pas le choix.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, ciao.
Bon week-end, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
Hey, how's your girl, man?
She left me.
Oh.
Yeah, my mom died, too. And my dad got deported. But I got the van.
It's nice.
Yeah, right?